Alors, ce matin, je voulais simplement lire avec vous quelques passages du dernier entretien que le Seigneur Jésus a eu avec son disciple, l'apôtre Pierre, qui se trouve donc dans l'évangile de Jean. Et nous lirons ce fameux discours, ce dialogue, entretien avec Pierre et Jésus. L'évangile de Jean, chapitre 21, et nous lirons à partir du verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. » Je voudrais m'arrêter sur cette phrase, « Que t'importe, suis-moi. » Et pourquoi Jésus a-t-il interpellé à trois reprises son serviteur, son disciple, en lui disant « M'aimes-tu ? » On pourrait se demander, mais pour quelle raison cette répétition ? Qu'est-ce qui la justifie ? Tout d'abord, cet entretien se situe dans une circonstance qui n'est pas due au hasard. C'était au bord du lac, et là encore, cela nous rappelle un autre épisode, aussi au bord du lac, avec aussi une pêche infructueuse, et aussi avec un entretien entre Pierre et le Seigneur. La première fois, c'est lorsque Jésus s'est approché de son serviteur et lui a fait prendre conscience combien il avait besoin de lui. Et c'est là que Jésus a provoqué cette discussion en lui disant « Jette ton filet ». Alors qu'il savait très bien que les pêcheurs de nuit, ces pêcheurs professionnels, avait passé toute la nuit sans rien prendre. Et c'est justement cela que Pierre va confesser. « Seigneur, tu sais, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. » Jésus le savait. Pourtant, il lui dit « Jette ton filet. » Et ce qui est extraordinaire dans la vie de Pierre, c'est que c'est cette réaction à répondre. Tout de suite, il a dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et Simon-Pierre, si vous voulez, si on remonte un peu dans son parcours, On voit que la première fois que Jésus l'a rencontré, c'était lorsqu'il avait été lui-même amené à Jésus par son frère André. Et cette première rencontre, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la vie de cet homme, c'est que le Seigneur lui dit, tu es Simon, tu seras appelé Pierre. Voilà, justement cette première rencontre, tu es Simon, fils de Jonas, eh bien tu seras appelé Céphas. Et on remarque aussi que Pierre a été le seul disciple dont Jésus a changé le nom. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on va le voir ce que veut dire, ce que signifie ce changement de nom. Tu seras appelé Pierre. Dès le début, on voit aussi Pierre prendre le devant, si vous voulez. Il est directement celui qui est toujours nommé en premier. Quand on voit la liste des disciples, on voit tout de suite Pierre le premier, André le second. Puis ensuite, on voit à diverses reprises, dans des circonstances bien particulières, la présence de Pierre. Il nous est dit que sur la montagne de la Transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Lorsque Jésus a guéri la fille de Jaïrus, les seuls qui étaient admis dans la chambre où a eu lieu ce miracle, c'était Pierre, Jacques et Jean. Dans le jardin de Gethsémané, où Jésus était entré en lutte avec les forces du mal, il nous est dit qu'il y avait là Pierre, Jacques et Jean. Malheureusement, Jésus va leur dire, mais vous n'avez pas su veiller une seule heure avec moi. Mais on voit qu'ils étaient présents. Sur la montagne de la Transfiguration, il y avait également Pierre, Jacques et Jean. Et là, nous avons une leçon extraordinaire aussi qui nous touche de près. C'est que cet homme était tellement attaché à son maître, tellement respectueux de son maître, soucieux du bien-être de Jésus, qu'il était prêt à apporter une solution humaine, bien sûr, de dresser trois tentes pour que Jésus soit bien installé au sommet de la montagne. Et ce qui est un peu amusant pour nous, c'est que lui était prêt à passer la nuit à la belle étoile. Quel sacrifice pour son maître, n'est-ce pas? Mais on voit l'attachement de ce disciple, son amour pour son maître, son respect. Malheureusement, voilà une solution humaine. Et Jésus va lui dire, il n'est pas bon que nous restions ici, sur la montagne. Parce que Jésus n'était pas venu pour rester dans le bien-être sur un sommet de montagne, à l'écart de la foule. Mais il savait que c'était dans la plaine qu'il devait être présent. Et le texte nous montre que dès qu'ils sont redescendus dans la plaine, ils ont tout de suite été confrontés à l'adversité, à l'hostilité et au combat spirituel. Dans la plaine, il y avait un enfant qui était possédé depuis sa naissance. Le père l'avait amené à ses disciples. Les disciples ont prié et puis rien ne s'est fait. Donc Jésus savait que cet enfant avait besoin de guérison. Le père avait besoin d'être repris parce qu'à un moment donné, cet homme dit, viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans la foi de cet homme qui devait être corrigé, fortifié, affermi. Et il y avait aussi des disciples qui avaient besoin d'une leçon de leur maître. Quand Jésus leur dit, mais vous savez, ce genre d'esprit ne sort que par la prière. Ça veut dire que leur prière à eux n'était peut-être pas tout à fait conforme à ce que Jésus, peut-être une prière faible, qui manquait de foi, peut-être qui manquait d'assurance, qui manquait d'éclairage. Mais cette phrase du Seigneur Jésus qui leur dit, ce genre d'esprit ne sort que par la prière, voulait bien signifier quelque chose pour ses disciples. Donc vous voyez pourquoi Jésus ne pouvait pas rester sur la montagne. Sa place était dans la plaine. Et la leçon, la proposition, la solution humaine de l'apôtre Pierre n'était pas celle de Dieu. Et vous voyez, ce sont toutes des petites leçons pour nous. Des fois, on a nous-mêmes des solutions. Mais est-ce qu'elles correspondent vraiment à ce que Dieu veut? Et ce qui est bon pour l'homme n'est pas forcément bon dans les plans de Dieu. Le courage aussi de l'apôtre Pierre va se manifester le jour où des hommes vont dire, mais où Jésus va poser cette question, « Qui dit-on que je suis ?»« Moi, le Fils de l'homme. » Et puis, il y a toutes sortes de réponses. Certains pensaient qu'il était Élie, d'autres pensaient Jérémie, d'autres l'un des prophètes. Et le seul qui a eu, je dirais, le courage, la conviction d'affirmer qui était réellement Jésus, c'était Pierre. Quand il lui a dit, « Simon, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et quelle récompense pour ce disciple que d'entendre le Seigneur Jésus lui dire, « Tu es heureux, fils de Simon, fils de... Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Quel encouragement pour ce disciple. L'approbation du Seigneur quant à sa confession de foi. Mais cet homme, et moi c'est ce qui me touche beaucoup dans la vie de Pierre, c'est qu'il est sincère, il ne cherche pas à camoufler, à déguiser les situations. Il est tellement sincère, honnête, que tout de suite après, quand Jésus commence à parler de la croix et des souffrances de la croix, alors là, la nature humaine n'accepte plus. La nature humaine de Pierre réagit. Et je crois, vous voyez, c'est ce combat qu'il y a constamment dans la vie de cet homme, entre l'ancienne nature, qui n'a pas encore cédé devant le nouvel homme, hein, que devenait petit à petit l'apôtre Pierre. Cette nature-là n'a pas accepté que Jésus aille sur la croix pour mourir. Lui, il aimait tellement son maître, il était prêt à tout pour le protéger, que ça, il ne pouvait pas. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'oppose à Jésus en lui disant, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Et vous voyez, ce revirement de situation, alors que Jésus venait d'approuver sa confession de foi, venait même de le féliciter, de l'encourager, il va être maintenant obligé de le désavouer en public, de le repousser en lui disant « Arrière de moi, Satan, car tu es animé de pensées humaines. » Vous voyez ce combat dans la vie de cet homme, et moi c'est ce que je trouve très touchant dans la vie de cet homme, et c'est autant de leçons pour nous, parce que nous souvent aussi nous réagissons de cette manière. Lorsque nous laissons la chair l'emporter, raisonner avec des raisonnements humains, eh bien, on se heurte parfois à la volonté du Seigneur. Et parfois, le Seigneur est obligé de nous reprendre tout comme il l'a fait. Mais ce que je trouve merveilleux de la part du Seigneur, c'est la manière dont il va réagir avec Pierre. Là, je crois que c'est la seule fois où il le reprend avec autant de sévérité. Et on le comprend, parce qu'il s'opposait au plan même du salut. Et on comprend pourquoi le Seigneur a été si sévère. Mais dans d'autres circonstances, il va le faire avec beaucoup de patience, beaucoup de grâce. Et rappelons-nous, lorsque Pierre, une fois de plus, va être choqué, lorsque le Seigneur Jésus va bouleverser toutes les convenances, lors de la Sainte Cène, lors du dernier repas. Et lorsqu'il a voulu instituer la Sainte Cène, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'identifie à un esclave. Il prend la place d'un serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Et là encore, on comprend que sur le plan humain, Pierre, tellement attaché, respectueux de son maître, se dit, mais enfin, c'est le contraire. C'est moi qui devrais lui laver les pieds, c'est pas lui. Et voilà qu'il réagit avec cette sagesse, cette réaction toute naturelle d'un homme, tout, tout simplement. Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Ça ne se fait pas. Tu n'es pas serviteur, tu n'es pas esclave. Tu es le maître, tu es le Seigneur. Alors comment se fait-il que tu veuilles t'abaisser pour me laver les pieds? Et là encore, Jésus va prendre une manière de dire dans ce dialogue où Jésus va lui montrer que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Vous voyez ces phrases qui veulent dire beaucoup de choses en si peu de mots. Tu n'auras aucune part avec moi. Et là encore, la nature de Pierre, c'est tout ou rien. Vous voyez, ici, c'est tout ou rien. Il dit non seulement les pieds, mais les mains, la tête. C'est-à-dire, lave-moi tout entier. Et Jésus, avec beaucoup de tact, de patience, va lui montrer que non, celui qui est lavé une fois pour toutes n'a pas besoin. Et c'est l'image de notre salut. Nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Lorsque le Seigneur a accepté notre repentance, notre prière, eh bien, nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. Et nous n'avons pas à chaque fois à revenir, Seigneur, accorde-moi ton salut. Le salut est acquis une fois pour toutes. Et c'est cette leçon qui se dégage aussi de cet entretien avec Jésus et l'apôtre Pierre au moment de la Sainte Cène. Mais voyez, il y a un passage sur lequel moi je reviens souvent. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle justement de ces deux natures. La nature humaine de l'homme naturel et la nature spirituelle de l'homme spirituel. Et il nous dit dans 2 Corinthiens 2, 14, 15, « L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet de le comprendre. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. » Et c'est là où on voit le miracle et la grâce de Dieu lorsqu'il nous a adoptés, lorsqu'il nous a envoyé l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est entré dans nos cœurs, lorsque nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous avons maintenant cette assistance du Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre l'Écriture, chose que n'avaient pas encore les disciples au moment où a eu lieu cet entretien avec Jésus. Et c'est pourquoi Jésus va maintenant annoncer le Consolateur et définir la mission du Consolateur qui viendra après lui. L'Esprit de Dieu qui viendra ensuite saisir ces hommes. Et nous voyons la différence entre ce Simon-là et celui qui était à Jérusalem lors de la Pentecôte. La force qui se dégageait de cet homme, la conviction, les paroles, le discours qu'il tenait, toute une différence, parce que là, il était vraiment saisi par l'Esprit de Dieu, inspiré, dirigé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'agissait pas de la même manière avant et après la mort du Seigneur. Alors, justement, la mission du Consolateur, Jésus nous dira, « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Ensuite, il dit, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu, il vous le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et ça, c'était toute l'espérance de ses disciples. Quand Jésus leur a dit, « Je vous enverrai le Consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin. » Encore une dernière leçon. Lorsque Pierre avait cette mauvaise habitude, cette faiblesse, mais peut-être que nous l'avons aussi, c'est celle de toujours se comparer. de regarder aux autres, regarder comment font les autres, ce que les autres ont, et forcément que je n'ai pas. Ce que les autres font et ce que moi je ne peux pas faire, ou que je ne sais pas faire. Vous voyez, ce réflexe, cette habitude de se comparer. Et ça a été un piège pour l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus va annoncer son départ, Pierre va lui dire, « Mais Seigneur, où vas-tu ? Où vas-tu ? » Et Jésus va lui dire, « Là où je vais, tu ne pourras pas me suivre. » Et là encore, c'est quelque chose que Pierre ne comprend pas, et ce qu'il ne comprend pas, il ne l'accepte pas. Si bien qu'il va dire, « Mais Seigneur, je suis prêt à te suivre, je suis même prêt à donner ma vie pour toi. » Et Jésus va lui dire, « Oui, c'est vrai, tu donneras ta vie, c'est vrai. » Et Pierre est mort en martyr, ne l'oublions pas. Mais ça, Pierre ne le réalisait pas encore à ce moment-là. Alors il continue, « Mais si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Il est tellement, et toujours en comparaison, « Si les autres t'abandonnent, toujours à se comparer avec les autres. » Malheureusement, il nous est dit aussi que quand ils l'ont entendu parler comme ça, ils ont tous affirmé la même chose, on ne t'abandonnera pas. Mais dans le jardin de Gethsémané, nous lisons, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quand ils ont vu arriver les soldats, les chefs religieux avec leurs épées, tous prirent la fuite. Alors, vous savez, quand la nature humaine résiste comme ça, il faut parfois des circonstances difficiles pour que l'homme réalise ses limites. Et ça a été très dur pour Pierre, mais il a fallu qu'il passe par là. C'est lorsque, après avoir renié le Seigneur 3 fois, après avoir entendu le chant du coq, après avoir vu le regard compatissant du Seigneur sur lui, il nous est dit qu'il a pleuré amèrement. Il a fallu ce reniement, il a fallu ces larmes amères face au regard compatissant du Seigneur. C'est là que Pierre a été vaincu. C'est là, je crois, qu'il a tout lâché. Ces larmes amères de repentir. Mais il a fallu cette expérience-là. Alors, j'espère que chacun de nous est différent. Le Seigneur connaît chacun de nos cœurs. Il sait comment agir pour notre bien. Essayons seulement de ne pas aller jusqu'à là. Mais regardons le Seigneur. Soyons humbles devant lui. Ne résistons pas. Pierre a résisté parce que c'était sa nature qui l'emportait. Malgré l'attachement, le respect, l'amour qu'il avait pour son maître, tant que la nature, tant que le vieil homme réagit, eh bien, nous pouvons connaître de telles expériences, tomber dans de tels pièges. Alors, pourquoi, justement, le Seigneur lui répète-t-il 3 fois, « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » Et vous remarquerez que la première fois, Jésus va lui dire « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» Là, il revient pour corriger ce défaut de l'apôtre Pierre, toujours en comparaison avec les autres. Et là, il veut justement le détacher pour lui dire « Arrête de regarder aux autres, arrête de te comparer, c'est uniquement entre toi et moi. » La relation personnelle. T'occupe pas des autres. T'occupe pas des autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait ce cœur à cœur. C'est ça que j'attends de toi. La deuxième fois, il va conduire plus loin. Il va lui parler des brebis. Paie mes brebis. Prends soin de mon troupeau. Comme pour l'introduire dans cette vocation qui va être la sienne. Et vous savez que dans les actes, l'église de Jérusalem, Pierre était considéré comme une colonne de l'église. Vous voyez la différence ? entre ce disciple qui n'avait, on le voit, on ne sait pas sur comment il se situe, et puis on le retrouve sur, comme une colonne, quelque chose de solide, sur lequel l'Église peut être fondée, une colonne de l'Église. Et ça, c'est le miracle de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu se saisit d'un homme, lorsque cet homme-là devient le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que la parole peut produire dans cet homme, le changement qu'elle peut produire dans cet homme. Alors après, bien sûr, face à tout cela, il nous est dit aussi, et le Seigneur le dit à Pierre, un jour, quelqu'un d'autre te conduira là où tu n'aimerais pas aller. Et vous savez que la tradition nous enseigne que Pierre a été crucifié la tête en bas, on nous dit. Voilà. Mais ça, c'est pour montrer simplement que celui qui veut suivre le Seigneur, celui qui veut s'identifier au Seigneur, eh bien, c'est le Seigneur qui conduit la suite jusqu'à son dernier souffle. Alors la leçon pour nous, c'est tout simplement d'essayer de tirer un exemple de la vie de ces hommes de l'Ancien Testament comme du Nouveau, de ces serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur exemple? Qu'est-ce qui peut nous servir aujourd'hui de leçon dans notre relation, dans notre marche avec le Seigneur? Je voudrais simplement vous laisser ces deux versets. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Chacun de nous. Chacun de nous. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, justement, c'est cette relation personnelle. Et quand il parle à chacun. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu. Autrement dit, personne ne peut se dire, mais moi, les autres ont reçu plus que moi. Peu importe ce que les autres ont reçu. Moi, je sais que j'ai reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ me donne dans son œuvre. Et c'est cela qui doit me suffire. C'est cette mesure de grâce pour laquelle je dois dire merci Seigneur, par laquelle je peux vivre ma relation avec le Seigneur. C'est la grâce que Dieu m'a donnée, la mesure personnelle. Elle est pour moi, elle n'est pas pour les autres. Elle est pour moi, que chacun de nous. Ensuite, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Là encore, notre préoccupation, c'est de savoir quel don Dieu m'a donné et comment je vais le faire fructifier pour la gloire de Dieu. C'est cela ma préoccupation. Ce n'est pas de savoir quel don les autres ont reçu. Parce que le risque, c'est de me dire souvent, ils ont reçu plus que moi. Et vous savez que ce soit sur le plan matériel, spirituel, on a toujours tendance à se comparer. Et malheureusement, on a toujours tendance à regarder à ceux qui ont plus que nous. D'où le mécontentement. Si je vois que l'autre a plus que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me sentir frustré, je vais me sentir diminué, et je ne saurais pas dire merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné, pour cette part de grâce que tu m'as donnée, parce que je regarderai toujours aux autres. Et vous savez que la nature humaine, par nature, nous ne sommes jamais satisfaits. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous reprend aussi en nous disant « Vivez dans le contentement, soyez contents, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. » Donc voilà, chacun de vous a reçu de Dieu. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Dans cette relation personnelle, dans cette marche personnelle, il y a cette relation de confiance individuelle qui fait aussi que si je veux marcher avec le Seigneur, je dois aussi apprendre à renoncer à moi-même, ça veut dire à tout ce qui me caractérise, tout ce qui fait mon quotidien, tout ce qui est dans mes pensées, tout, renoncer à tout. Pour suivre le Seigneur, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je crois que le meilleur exemple, c'est Jésus lui-même. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne, et au serviteur comme son maître. Alors, nous avons un exemple merveilleux dans la personne du Seigneur, dans son ministère, jusqu'au sacrifice suprême. Et ne prétendons pas, ne cherchons pas une autre voie. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Et Jésus nous a laissé un exemple. La Bible nous dit, c'est Pierre lui-même qui dit cela. Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Vous voyez, c'est pas un hasard que ce soit lui qui dit ces paroles. Alors que le Seigneur nous aide à repasser ces choses dans nos cœurs, à savoir que ce qui a le plus de valeur aux yeux du Seigneur, c'est justement cette relation de confiance, relation personnelle, de dépendance de notre Seigneur, de notre Maître, sachant que lui nous a précédés, qu'il nous a laissé un exemple et qu'il n'y a pas d'autre modèle à suivre que celui-là. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble et encore merci pour votre accueil ce matin.